Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour Monsieur Rivière.
La mobilisation des Gilets jaunes diminue en nombre depuis samedi, mais elle se durcit dans ses actions. Est-ce que vous pensez qu'on va vers la fin de ce mouvement ou plutôt que nous sommes au début de quelque chose de plus dur ?
Il change en tout cas de nature. On voit bien que dans les rassemblements qui perdurent, il y a sans doute encore de braves gens comme on avait ce week-end, des citoyens normaux qui sont exaspérés, qui disent une chose. Même si on travaille, on ne s'en sort plus. Il y a les taxes sur l'essence, mais il y a tout le reste, en réalité, qui vient dans les conversations, dans les discussions, dans les manifestations. Et puis là, je disais récemment que on a les groupes habituels extrémistes, de gauche ou de droite d'ailleurs, qui viennent essayer de durcir le mouvement. Ça change de nature. Et la discussion qui doit avoir lieu au sein du gouvernement, c'est comment faire pour parler à ceux de samedi. Ceux qui veulent casser, ceux qui veulent briser, il n'y a pas grand-chose à leur dire. C'est par le maintien de l'ordre qu'on doit leur répondre. Mais pour les autres, il y a quand même quelque chose à leur dire. Et manifestement, le gouvernement ne sait pas quoi faire. Pourquoi ? Parce qu'il est pris dans sa contradiction. Il prétend avoir mis en place une fiscalité écologique, qui n'a rien d'écologique, puisque le produit de la taxe, c'est environ 7 milliards si on cumule 2018 et 2019. Et ils ne l'utilisent pas pour permettre aux Français de changer. Le sentiment général...
Parce qu'il faudrait tout redistribuer, selon vous ?
Mais bien sûr, le sentiment général, c'est soutenu par 75% des Français. C'est simplement de dire, s'il y a une taxation écologique, et elle est nécessaire, parce qu'on a besoin de transition énergétique, on est en train de faire crever la planète, on doit faire des efforts pour que nos petits-enfants puissent vivre. Mais la taxation énergétique, ça doit être du bonus-malus. C'est-à-dire, si on vous prend parce que vous polluez, on vous rend pour ne pas polluer, pour pouvoir changer de chaudière, pour pouvoir changer de voiture, et pas par petits bouts de chandelle comme le gouvernement le fait. Or, aujourd'hui, je prends l'exemple du budget 2019 qui vient d'être adopté hier, c'est 3,9 milliards d'augmentation de taxes sur les carburants, et c'est 260 millions d'euros qu'on rend aux Français. Le coût du chèque énergie, c'est juste une plaisanterie. Vous changez votre chaudière avec 250 euros ? Avec ces 3,9 milliards disponibles, on peut permettre aux gens de se chauffer plus propre, de se déplacer plus propre. Simplement, il faut avoir une politique. Et quand je parle de contradiction, je termine là-dessus, du gouvernement, c'est il nous dit, je fais une fiscalité, une taxation écologique, mais comme elle n'a rien d'écologique, à la sortie, c'est juste une taxation. Et ça exaspère légitimement
les Français.
Au fond,
donc, vous dénoncez une imposture. Vous dites, ça n'est pas du tout pour financer la transition énergétique.
C'est pour remplir les
caisses de l'État et peut-être
bien
pour financer la taxe d'habitation.
Très concrètement, je l'ai fait la semaine dernière en face du Premier ministre. Le Premier ministre m'a répondu que finalement, c'était peut-être pas pour l'écologie, c'était pour baisser les charges sociales. Oui. Mais la réalité, me semble-t-il, c'est qu'au moment où on a promis de supprimer la taxe d'habitation, parce que vous payez plus sur la taxe d'habitation, vous le payez à la pompe.
Pour en revenir au mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous croyez qu'il puisse se structurer, s'organiser et finalement inscrire son combat dans la durée? Là, par exemple, hier, la Fédération Force Ouvrière Transport a invité ses adhérents et ses sympathisants à se joindre aux Gilets jaunes pour, selon le mot d'ordre de FO, obtenir une augmentation de pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'en effet, ça dépasse la question des carburants. Est-ce que ça peut être le signe que ce mouvement peut prendre de l'ampleur et, entre guillemets, se professionnaliser?
Je n'en sais rien. Ce que je vois surtout, c'est que ce qui prend de l'ampleur, c'est l'écart qui existe entre nos dirigeants et tous ceux qui le dirigent, mais qui représentent quelque chose. Ce qui me frappe, c'est quand Laurent Berger fait une proposition qui revient à peu près à ce que nous disons nous. Mettons-nous autour de la table pour organiser la transition énergétique. Prenons naturellement les représentants de l'État, des entreprises, des salariés, des élus locaux, pour faire en sorte que ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui ont été si méprisés et si négligés depuis le début de ce quinquennat, puis simplement dire comment on fait. Souvenez-vous, Jean-Louis Borloo, quand il organise le Grenelle de l'environnement, on met tout le monde autour de la table.
On en parlait hier ici même avec notre invité, puisque c'est aussi ce que propose le Parti Socialiste.
Et dans ces cas-là, pour le compte, il y a des solutions à trouver, à la fois pour qu'on pollue moins, parce qu'on va s'asphyxier, on va crever. Il y a que Trump qui croit que le climat n'est pas en train de changer. Et puis, quand on regarde les conséquences, il faut assumer les conséquences économiques, parce que c'est un nouveau modèle économique, et les conséquences sociales qui vont avec. Et ce projet-là n'est pas porté par le président de la République. De ce point de vue-là, c'est une faute. Et donc, il amplifie les incompréhensions. Je ne sais pas ce que sera l'avenir du mouvement des Gilets jaunes, mais l'avenir de cette incompréhension, c'est le plus inquiétant, parce qu'elle fait un boulevard à toutes les dérives populistes ou fascistes.
Mais alors, c'est ce que j'allais vous demander. À qui, politiquement, profite aujourd'hui ce climat social ?
Aujourd'hui, à personne.
Vous êtes sûr aujourd'hui qu'il ne profite pas à la France insoumise, au Rassemblement national ?
Écoutez, ça ne se traduit pas, mais l'exaspération, en réalité, ne produit jamais un résultat positif. Ça peut cumuler tous les mécontentements, les rages, les colères. Mais la vérité, c'est que ça ne construit rien. Et donc moi, je suis un responsable politique qui continue à dire « nous devons construire ». Nous devons construire un certain nombre de choses, dont cette transition écologique. Les Français, comme le reste du monde, ne doivent pas passer à travers, mais on ne doit pas le construire sur le dos des gens. Aujourd'hui, on voit le bâton, on ne voit pas comment on est accompagné. Vous savez, quand vous habitez au cœur d'une grande métropole, que vous avez tous les moyens de transport à disposition, métro, tramway, etc., c'est facile de donner des leçons de morale à celui qui habite en banlieue et qui, comme dans la ville dont je suis l'élu, Drancy, n'a pas de métro. Comment on fait quand on habite au fin fond d'une zone rurale et que tous les jours, faut aller bosser? Et d'ailleurs, à un moment donné, ils ont eu l'idée de dire « on va payer quelque chose à ceux qui travaillent ». Ah bon ? Et les retraités qui sont déjà passés à la caisse de la CSG, qui doivent déjà leur pouvoir d'achat gelé, on va en plus leur dire que eux, ils payent l'essence pour aller faire leurs courses. À un moment donné, on voit bien que tout ça est une politique de gribouille. C'est-à-dire qu'on ne prend pas. Et c'est peut-être ça qui a fait partir Nicolas Hulot. C'est que finalement, là où on a eu le sentiment dans la campagne présidentielle qu'il y avait une vision, dans ce domaine-là, il n'y en a manifestement aucune.
Alors décidément, vous me faites les transitions, c'est formidable, puisque vous avez parlé de votre ville, Drancy, dont vous êtes le maire, et le congrès...
Non, je ne suis plus maire.
Dont vous avez longtemps été le maire. Le congrès des maires de France s'est ouvert hier. Une nouvelle fois, sur fond de défiance entre les élus locaux et l'État, le président de la République ne va pas s'y rendre, contrairement d'ailleurs à ce qu'il avait annoncé, puisqu'il s'était engagé à venir tous les ans rendre des comptes au maire de France. Comment vous interprétez cette absence du chef de l'État? Est-ce que c'est une défilade, en quelque sorte? Est-ce qu'il se défile? Parce que je ne crois pas que défilade existe.
Je pense que c'est un renoncement coupable. Le président de la République, il ne peut pas diriger depuis le palais de l'Élysée, même s'il a invité les maires à y venir, quelques maires à y venir. Il ne peut pas diriger depuis la rue du Faubourg-Saint-Honoré en espérant que ça se passe bien, surtout quand il y a des réformes et des changements importants à faire. On parlait tout à l'heure, je parlais de Laurent Berger, de la CFDT qui fait une proposition. Mais les maires de France sont aussi ces corps intermédiaires. Eux, ils ont la population tous les jours en face d'eux, pas pendant une itinérance mémorielle comme on l'a vu il y a quelques jours.
Ce sont d'ailleurs à peu près les seuls élus qui sont appréciés.
Et il se trouve, que ne pas aller les rencontrer, parfois les affronter, c'est un manque de considération. Vous savez, comme vous le disiez, j'ai longtemps été maire. Quand on est maire, on se fait engueuler quasiment tous les jours. Mais on est en face des gens. Il faut affronter cette engueulade. Et il faut l'entendre. Et si Emmanuel Macron ne comprend pas que discuter avec les maires qui sont des gens modérés, raisonnables, pragmatiques, c'est son boulot, je le regrette, parce que les recevoir à l'Élysée, c'est une façon de dire « j'ai essayé d'échapper à l'Assemblée ». Vous savez quoi ? À échapper aux éventuels sifflets. Mais ce qui devrait l'interpeller, c'est quand vous avez la moitié des maires, notamment ceux qui ont été élus en 2014, qui envisagent de renoncer à leur mandat.
Mais alors justement,
Coup politique contre lui,
c'est par épuisement, en quelque sorte.
C'est par épuisement et parce que la mission devient impossible.
Alors, il nous reste une petite minute, justement. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'où vient le malaise des maires? Qu'est-ce qu'ils demandent? Plus de pouvoir? Plus d'autonomie? Plus de moyens?
Vous avez trois sujets.
Mais on a 40 secondes.
Trois sujets en 40 secondes. Le premier, c'est que l'État réduit drastiquement ce qu'il donne aux collectivités locales. Deuxièmement, il multiplie toutes les charges et les obligations sur les mairies. L'équation devient impossible. Et le troisième sujet, c'est que progressivement, l'administration centrale veut recentraliser des choses en même temps qu'elle retire à la commune des pouvoirs ou qu'elle les transfère à une intercommunalité dont personne ne sait rien. Ouais. Là aussi, il y a un problème de vision de la façon dont on doit organiser le territoire national, parce que c'est de la vie quotidienne des Français qu'il s'agit, mais c'est aussi de notre efficacité économique.
Parfait pour les 40 secondes. Impeccable. Merci Jean-Christophe Lagarde et bonne journée.